France Inter.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans À la régulière, l'émission de toutes les cultures. Ce soir, on reçoit une invitée qui a cette capacité rare, transformer tout ce qu'elle touche en rendez-vous générationnel. Des vlogs d'août au tapis rouge, de son nouveau programme Couch au défilé, de sa chaîne YouTube à Forbes et maintenant un nouveau livre qui risque encore une fois de faire beaucoup parler, Léna Situation est avec nous. Elle revient avec encore mieux un ouvrage pensé comme un carnet à s'approprier entre introspection, organisation, confiance en soi et questions qu'on se pose à voix basse. Un livre qu'elle a écrit, réécrit, recommencé, affiné jusqu'à en faire un projet très personnel au point d'en créer sa propre maison d'édition. Bref, on ne parle pas seulement d'une autrice, mais d'une véritable créatrice d'univers. On va revenir sur la genèse du livre, sur ce qu'elle dit de notre époque, de la pression et même du regard des autres. On est avec Léna pendant une heure à la régulière.
France Inter. À la régulière. Mehdi Maizi.
Bonjour Léna.
Bonjour.
On est là parce que tu viens sortir ton nouveau livre, Encore mieux.
Oui.
Ma première question est très simple. Comment ça va?
Bah écoute, ça va super. Là, je suis au top en ce moment.
Première question, elle est toute simple, mais tu sais, évidemment, on te voit depuis longtemps, sur Internet, pas que, à la télévision. Là, il y a un nouveau livre, et t'es un peu dans une forme de tourbillon médiatique.
J'essaye la promo.
T'es en promo. Ouais, tu joues vraiment le jeu de la promo,
j'essaye.
En tout cas, cette fois. Comment ça va? Comment tu vis cette période-là où, évidemment, t'as l'impression d'être bien quand on te voit, mais...
Hier, j'ai pleuré minute 2 chez Click.
Ah ouais?
Ouais, j'allais un peu moins bien.
Pourquoi?
Bah parce que c'est quand même assez particulier cet exercice d'aller... J'ai un peu l'impression de faire du racolage. Je sais pas si c'est péjoratif de dire ça pour les gens qui nous écoutent, mais c'est vrai que c'est particulier quand pendant des années, t'as construit ta propre communauté sur Internet. Et toute l'année, je parle avec des gens qui ont décidé de prendre ce petit rendez-vous avec moi par volonté, pas parce qu'un algorithme a poussé ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que quand je me retrouve dans les oreilles de gens qui me connaissent pas, bah, je redeviens très mal à l'aise. Et j'ai l'impression un petit peu de devoir repartir à zéro. Et puis après, évidemment, il y a toute la partie aussi où tu découvres les commentaires, comment ça a été réceptionné. Et parfois, oui, ça peut être un petit peu plus difficile que d'autres moments. Mais jusqu'ici, tout va bien. Je suis contente. Je crois que le livre plaît bien. Et c'est aussi quand même, je trouve, important de faire le pont entre des générations et, parce que je viens d'Internet, ne pas tourner le dos aussi aux médias plus traditionnels, ouais, et aussi à des audiences qui ne connaissent pas. Je trouve que c'est chouette, peut-être par exemple pour les parents qui nous écoutent, de parler en disant, bah voilà, c'est ça que vos enfants regardent et voilà ce que j'en pense et mes conseils, et etc. Donc c'est ce que j'essaye de faire avec cette promo, comme on appelle ça.
Est-ce que tu sens même au-delà du livre, parce qu'en fait, c'est pas uniquement avec ce livre-là que t'arrives, on va dire, dans les foyers français, ça fait quand même quelques années que même, je pense, qu'une autre audience t'a découverte. Est-ce que tu sens justement que ton public, il a changé? Qu'aujourd'hui, il y a aussi, il n'y a pas que les enfants, mais il y a aussi les parents. Tu le vois, ça?
Je le ressens beaucoup, parce que la dernière fois, on parlait avec une nana qui me parlait de son audience pour une marque. Elle me dit, mais en fait, Léna, c'est comme le Monopoly, c'est de 7 à 77 ans. Je dis, oh waouh! Mais c'est parce que je pense avoir eu cette volonté depuis le début de ne pas forcément mettre mes œufs dans le même panier. Et puis, c'était l'envie, en fait, de parler sur plusieurs plateformes et chaque plateforme a son audience.
T'es pas uniquement une YouTubeuse. Tu viens de là, en fait. Mais aujourd'hui, j'aurais du mal à te qualifier comme YouTubeuse versus d'autres amis à toi qui ont vraiment investi ce terrain-là et qui sont encore essentiellement. T'es un peu plus tentaculaire.
J'aime bien toucher à tout. C'est parce que j'ai commencé YouTube, j'avais, je crois, 16-17 ans.
Ouais.
J'en ai 10 de plus aujourd'hui, donc c'est clair qu'en 10 ans, t'as envie d'essayer d'autres choses. Et puis, c'est surtout que je m'amuse, même si le fil rouge reste la création de contenu. Il y a parfois de la vidéo sur YouTube, parfois ça va être du podcast sur mon podcast, le livre pour avoir un objet aussi plus tangible. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, à travers les différentes plateformes, tu as une audience qui est complètement différente. Et c'est pour ça que parfois, ça me fait un petit peu sourire aussi quand on est présenté par les grands médias en disant « ils parlent qu'aux enfants ». C'est pas du tout le cas. Vraiment plus.
Tu le vois même, j'imagine, même sur tes réseaux, dans les statistiques, les gens qui te suivent, c'est pas uniquement des enfants aujourd'hui.
Ah, pas du tout. C'est même un très petit pourcentage. Finalement, après, évidemment, il y en a qui mentent sur leur âge.
Bien sûr, ils prennent le compte des parents.
TikTok, tu connais. Mais la plupart, même des gens avec qui j'ai l'impression d'avoir des conversations au quotidien, c'est des gens de mon âge.
Ouais.
Donc, on est entre 25 et 35 ans. Et puis après, il y a des mamans qui m'envoient des messages en disant j'ai honte, vous avez 20 ans de moins que moi, mais j'adore regarder vos vlogs de août. Et en fait, je trouve ça génial. Et ouais. Tu dis bien, c'est mon papa qui me répète ça, c'est rentrer dans le foyer des gens, dans le sens où c'est quand même très généreux de leur part, dans leur journée bien occupée, de prendre 20, 30 minutes pour regarder cette vidéo YouTube, une heure à partager leurs écouteurs en écoutant un podcast. Là, ce que les gens nous proposent, c'est, je trouve, extrêmement généreux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi envie de leur donner et de faire les interviews et de pouvoir aussi plus expliquer ce qu'on fait et le cheminement de pensée que j'ai au quotidien.
Tu parles de tes débuts sur YouTube, même de ton rapport aux gens, à ton audience. Et je pense qu'aussi, quelque chose qui a plu, qu'on a beaucoup relevé de confiance, c'est de la proximité que tu as avec les gens, même aussi dans le message que toi, tu véhiculais, dans la manière que tu as toujours eu de te présenter. Mais entre-temps, mine de rien, tu es aussi devenu, qu'on le veuille ou non, une icône.
Ouf,
mais si, c'est vrai. C'est un grand mot, mais en tout cas, je pense que pour, à minima pour une génération, et aussi quelqu'un qui, je vais pas dire flirte, mais qui est complètement dans le milieu de la mode, avec parfois, tu sais, qui travaille avec des marques aussi extrêmement prestigieuses.
Ouais.
Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux avoir peur parfois de perdre cette espèce de lien de proximité que toi, tu as toujours mis en avant?
C'est une très
bonne
question.
Qui peut parfois sembler loin de ce que tu une partie de toi aussi incarne, c'est-à-dire aussi la mode, le luxe et d'autres, quelque chose qui est plus prestigieux.
C'est une très bonne question parce que ça a été longtemps un cheminement de pensée de mon côté parce que j'avais un énorme doute à me retrouver dans le milieu de la mode. Alors ouais. C'est vrai que mes vidéos, il y a 10 ans, je faisais des hauls avec des petits budgets. Je m'achetais ouais. mes vêtements comme une étudiante qui dépense ses sous qu'elle a gagné au babysitting 8€ de l'heure pour pouvoir ensuite aller chez New Look et s'acheter une paire de chaussures. C'était ça mes vidéos au début.
Ouais,
donc c'est vrai qu'il y a quand même un grand écart aujourd'hui entre ce haul où vous montrez des chaussures à 15€ et se retrouver au premier rang du défilé d'une grande maison de couture. Et c'est vrai que ça a été longtemps une dualité en disant, mais qu'est-ce que je suis en train de faire?
Ouais.
Parce que j'en ai tellement rêvé, et depuis le début, je l'ai vraiment exprimé. J'ai fait une école de mode. Mes premières vidéos, c'était dans cette école de mode où on me voyait à l'amphithéâtre en train de préparer des présentations sur l'histoire de la maison Dior. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même, de mon côté, un...
C'est logique, de ton côté. Un cheminement, en tout cas, logique.
Il y a un cheminement, et puis surtout, il y a un rêve.
Ouais.
Voilà, j'ai un mode, est-ce que je peux réaliser mon rêve tout en restant une meuf sympa? Je pense de devenir une connasse. Et mes parents m'en auraient pas laissé l'occasion. Mais là où j'ai trouvé, moi, mon terrain, où je me sens à l'aise dans mes baskets, ça va être ce moment où, en étant présente à un défilé, en participant à, je sais pas, la présentation d'une exposition de mode ou quoi que ce soit, je m'y sens bien à partir du moment où je peux le partager. À partir du moment où ma présence fait que c'est comme s'il y avait pas un plus un, mais un plus 5 millions de personnes qui puissent venir avec moi, qui puissent regarder ce défilé à travers Internet, qui puissent le décortiquer ensuite à travers des interviews qu'on va faire avec les directeurs artistiques. Mmh. Et c'est clair que quand je le vis de façon seule, je trouve que c'est quand même assez égoïste. Et c'est comme ça que j'ai voulu lancer mon podcast Couch. En fait, c'est que je me retrouve à avoir des conversations avec des gens hyper inspirants qui sont en haut de la sphère. Et de même, c'est chiant de vivre ça toute seule quand je pourrais partager cette conversation avec tout plein d'oreilles. Donc voilà, si j'arrive à faire en sorte que ma présence ouvre les portes d'un milieu qui les a longtemps fermées aux gens comme nous.
Bien sûr.
Et si par la suite, ça peut aussi faire venir d'autres meufs qui viennent avec moi au défilé, qui ont envie de vivre aussi de leur passion. Si franchement, ma présence au début a dérangé, mais aujourd'hui, ça fait venir plein d'autres personnes. Alors je me dis que j'accepte.
Tu sens que ça, il y a ça aussi, qui est ce côté ouvrir des portes sans faire des caisses. J'imagine que toi, tu ne te vois pas forcément comme ça quand tu te lèves le matin. Mais le simple fait qu'une personne comme toi, qui soit invitée au Met Gala ou dans tous ces défilés, mine de rien, ça crée des précédents. Est-ce que tu te rends compte de ça? Du fait que il n'y a pas eu 10 000 personnes avant toi d'Internet qui a eu l'occasion, mais aussi qui le talent pour ouvrir ces portes-là. Ça crée quand même des précédents.
Quand j'ai eu ma statue au musée Grévin, j'ai cette folle phrase.
Voilà, la phrase est folle. Ouais.
Cette phrase est folle.
Ouais, ouais, ce sera le titre du podcast.
J'ai l'impression d'être Serge Le Mito parfois. Quand j'ai eu cette statue de cire au musée Grévin, évidemment, il y a le truc un peu égoïste où tu vois tes parents qui sont en larmes, qui disent mais comment ça se fait? Le tracé de notre vie, on ne devait pas nous ramener là à la base. Donc il y a ce côté où moi je le vis très fortement en disant c'est génial, je peux faire kiffer les parents, les mettre à l'abri et tout. Et en même temps, dans le discours du musée Grévin, ce que j'ai dit, c'est que si ça peut ouvrir la porte à tous les mini-squeezies et toutes les mini-Lena situations qui, par la suite, ont envie de créer leur métier, si notre présence peut ensuite ouvrir la porte à d'autres, Bah, c'est super.
Léna, je te propose qu'on écoute tout de suite une artiste que tu as récemment reçue dans Coach, Théodora, nouvelle superstar qui possède d'ailleurs le morceau numéro 1 du pays à l'heure actuelle pour sa collaboration avec DC's, qui sera notre invité demain. On écoute tout de suite Fashion Designer. On vient d'écouter Théodora et tout de suite, on poursuit la discussion avec Léna Situation. Sans revenir évidemment sur notamment une personne qui est dédicacée dans ce nouveau livre, Frédéric Beigbeder, on se souvient, mais tu t'es déjà expliqué là-dessus. Mais ce premier livre, il s'est vendu à 500 000 exemplaires, ce qui, dans le milieu de l'édition, est quand même un chiffre assez rare. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, ce livre précisément, et le succès de ce livre ?
Je pense que c'est là où on a un petit peu commencé à se dire que ce n'est pas juste des pixels sur Internet, ces gens. Parce qu'en fait, on nous avait mis dans une petite partie des médias et une toute petite partie du divertissement en disant oui, bon, c'est que des enfants qui vont lire. Pardon, c'est que des enfants qui vont regarder leurs vidéos YouTube. Et je pense que ça a fait surtout un petit choc à toute une génération qui ne croyait pas forcément en les capacités de la nôtre, d'aller en librairie, d'aller acheter un bouquin. Enfin, c'est pas dans le
cas. Il y a aussi ça, t'as ramené des jeunes en librairie, en fait.
C'était trop chouette. Ouais. On a plein de libraires indépendants, même encore aujourd'hui, qui nous disent c'est trop chouette, ça ouvre des conversations, il y a des parents qui viennent avec leurs enfants acheter le bouquin, on a des jeunes de 20 piges qui viennent et qui rentrent dans la librairie, donc c'est très chouette. Mais je pense qu'on n'est pas une génération aussi stupide qu'on veut nous faire croire. Et on a des façons différentes de se divertir, mais bon, le divertissement a toujours existé depuis, depuis toujours, quoi. Ça fait partie de l'humain, de vouloir se divertir. Et la sortie du premier livre, je pense que ça a rappelé aussi à tous les parents, à toutes les personnes qui ne nous connaissaient pas, que les gens qui regardent des vidéos sur Internet, ce sont des vrais humains qui peuvent se déplacer, qui ont une conscience, qui ont des envies, qui ont aussi... cette envie-là, c'est un livre sur la positivité. C'est des gens qui ont aussi envie d'avoir ça entre leurs mains et qui ont envie aussi d'appliquer le plus égale plus et tout ça. Donc, je pense que ça fait un petit... Ah bah attendez, en fait, Léna, c'est pas juste des pixels sur Internet qui la suivent.
Mais oui.
Mais quoi, les youtubeurs, c'est des vrais gens. Et je pense que maintenant, plus on fait d'événements aussi qui nous réunissent, je pense au GP Explorer, où tu te prends une claque en te disant, bah, tout ça, c'est des gens qui partagent un moment en commun, un moment où, je sais pas, le mercredi, on écoutait le même podcast, le jeudi, on regardait la même vidéo imposteur de Squeezie avec Aya Nakamura et Géraldine Nakache. Donc, c'est des... Ce rendez-vous-là, je pense que beaucoup l'imaginaient juste, bon, voilà, c'est le petit geek d'Internet. Et au final, ils disent, non, c'est tout le monde.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je regardais une interview de Amine Mathieu, qui est un grand streamer français, un des plus connus aujourd'hui.
Je ne le connais pas très bien, Amine.
En tout cas, qui était interviewé chez Zach Nani. Donc, l'interview est assez fleuve, si tu veux mieux le connaître. Il expliquait quelque chose sur les créateurs de contenu français et le public français. Il expliquait que lui, il voyait une vraie différence entre la France et notamment le reste d'autres pays européens. Il trouvait que le public était justement très éduqué en France et que c'était un public qui n'était pas dupe. C'est-à-dire qu'il voyait très bien, très au fait des collaborations avec les marques. Mm-hmm. Le moment quand un créateur de contenu faisait quelque chose avec une marque pas très clean, les gens le voyaient tout de suite. Quand ça a été fait de manière pas forcément sincère, les gens le voyaient. Enfin, je ne sais pas si toi, tu es d'accord avec ça, mais il trouvait que le public français était plus dur, mais aussi plus peut-être intelligent, en tout cas plus éduqué à Internet que d'autres pays. Et justement, du coup, ça montre aussi cette espèce de... Oui, que le public est averti en France.
Ouais, je pense qu'on a un public averti. Je pense... j'avais même peur que tu commences ta phrase en disant il a dit que les Français par rapport aux États-Unis sont plus méchants, plus durs. J'en avais un peu marre d'entendre cette phrase
non,
en disant...
Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais c'est vrai que beaucoup de gens disent ça.
C'est parce que beaucoup ont dit, ouais, les gens en France sont aigris et tout. Je dis, bah oui, bah déjà, on n'est pas dans les mêmes conditions politiques. Il y a des raisons d'être aigris en France, désolé, mais bon... C'est pas volé, quoi. C'est pas genre senti nulle part. Et évidemment qu'on a un public qui est plus averti. On a un public qui parfois peut être très intense. Surtout, je pense à certaines plateformes qui ont vraiment banalisé certaines façons de se parler. Bon, on est chez les fous, là, de s'insulter comme ça.
Tu penses à X, notamment, j'imagine.
Ouais, X. Oui. On peut même plus...
Forcément Twitter.
Ouais, je pense à Twitter. Où c'est limite, tu peux même te rémunérer quand tu fais un top tweet. Et généralement, les top tweets, c'est pas les plus sympas.
Exactement.
Pour gagner...
quelques dizaines d'euros en fait.
Ouais, je sais même pas c'est quoi, je sais même pas si ça vaut la
rémunération. Je crois que Twitter, enfin X maintenant, parce qu'effectivement, pour expliquer pour les gens qui connaissent moins, donc Twitter maintenant s'appelle X, a été racheté par Elon Musk. Effectivement, maintenant on peut gagner de l'argent avec des tweets, mais je crois, pour avoir lu quelques éléments, notamment quelques témoignages de personnes qui ont fait des top tweets justement, que c'est pas énormément d'argent.
Après, au-delà de ça, franchement, même si c'est 10 balles. Prends les 10 balles.
Les prends sur quoi en fait? Tu les prends sur parfois de la haine, un peu
de la misogynie, du racisme, de l'homophobie. Donc c'est là où moi je mets quand même le hola.
Voilà.
Par contre, au-delà de ça, c'est ce que je veux dire, c'est que depuis ce rachat, il y a du coup cette
banalisation.
Et oui, surtout qu'en fait, plus rien n'est censuré. Tu peux dire des folies sur Internet et enfin sur Twitter et tu peux même plus signaler parce que c'est une nouvelle politique.
Exactement.
Donc ça, voilà, pour le coup, je suis quand même assez contre et je le mets assez en garde, les gens qui nous suivent, même si aujourd'hui, taper sur des personnalités publiques, ça fait partie du jeu, je peux l'entendre, même si parfois j'ai vraiment l'impression qu'on est complètement déshumanisé. Il y a aussi juste l'exemple que ça donne pour ceux qui n'ont pas cette plateforme publique, ceux qui vont se lire des tweets, même quand ça ne te concerne pas, tu sais, quand tu vas lire quelque chose d'hyper négatif ou hyper raciste, ça peut t'atteindre alors que ça t'est pas adressé, tu peux t'identifier à une insulte. Et puis même, si tu commences, par exemple, on parle du corps des femmes en ce moment, je pense à Ariana Grande qui a fait toute la promo de son film en ce moment. Wicked.
On dit Wicked.
Wicked.
J'ai jamais regardé.
Arrête, c'est génial.
J'ai pas dit que c'était pas bien.
Mais en plus, c'est une comédie musicale, t'adores la musique, c'est super.
J'adore la musique, mais j'ai un peu un problème avec les comédies musicales.
Mais non.
Je sais pas, ça me...
C'est parce que t'as pas vu High School Musical quand t'étais gamin.
Non. C'est vrai, c'est pas ma génération. J'ai vu West Side Story quand j'étais gamin. C'est déjà un film de vieux.
Classique, non mais classique quand même.
Classique, classique.
Mais il faut que t'ailles voir une pièce de comédie musicale. Va voir Le Roi Lion.
Ça m'a ennuyé.
Mais non, Le Roi Lion.
Mais pardon, j'aime bien.
Faire très attention à ton jugement pour les prochaines choses.
Je suis un imposteur, moi. Je suis le vrai imposteur de Squeezie. Je n'ai que des goûts nuls. Mais je suis pas un grand fan de comédie musicale.
Bon bah tu rates. Et pour revenir à Ariana Grande.
On dit Wicked.
Wicked.
Ok.
Ariana Grande sur la promo de Wicked. Tout le monde se permet de commenter son corps.
Ouais.
Mais de façon horrible, même de faire des montages en IA avec elle, comme si c'était un squelette. Et tu te dis, mais en fait, on est vraiment... c'est devenu un peu la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et je pense pas forcément à Ariana Grande en tant que telle, parce que c'est beaucoup plus large que juste une femme en particulier, ça vient vraiment s'attaquer à toutes les femmes. Et t'imagines que t'as une personne qui se sent mal dans son corps et qui voit comment, peut-être qu'elle aussi a des troubles alimentaires, peut-être qu'elle aussi a ses démons avec...
Qui va peut-être pas bien à ce moment-là
dans sa vie, on sait pas ce qui se passe. Et en fait, de voir qu'il y a aucun garde-fou sur les réseaux sociaux et que c'est devenu complètement banalisé, c'est là où je mets quand même le warning. Et c'est là aussi, moi, j'arrive un petit peu à décrocher mon cerveau quand... ça vient m'atteindre de mon côté.
Parce que t'as aussi été largement victime de ça. Non mais c'est vrai, de cyberharcèlement, t'en as déjà parlé, hein, tu t'exprimes évidemment là-dessus, sur différents sujets en plus. Ça peut être sur le physique, ça peut être sur tes origines, ça peut être sur quelque chose que t'as, que t'as dit, qui a été volontairement mal comprise parfois. J'ai l'impression que t'es tout le temps entêté sur Twitter. Non mais tu sais, fais partie de ces personnalités-là qui même, quand tu t'exprimes, tu l'es. Quand tu t'exprimes pas, on va dire « Ah, elle a pas parlé, donc elle aurait dû parler ». Comment tu vis cette espèce de exposition constante et haine aussi constante, malgré évidemment le nombre de gens qui t'aiment, mais il y a aussi ça qui est tout le temps là.
C'est vrai, mais j'ai pas non plus envie de continuer de donner trop d'importance sur ça parce que j'en ai fait couler des larmes. J'ai passé des journées entières dans le lit à être mal, j'ai annulé plein de projets que je trouvais extraordinaires, que je voulais faire parce que j'avais peur de m'afficher à nouveau. La promo du livre, je voulais plus la faire à un moment parce que j'avais peur en fait que les gens me voient encore sur internet et que je me fasse encore défoncer. Et au final, je me dis, je peux pas vivre dans cette crainte constante qu'on me critique. Ça fait 10 ans que je partage ma vie sur internet, c'est sûr que j'ai fait des choses où je pouvais faire des erreurs, comme une nana de 20 piges qui est en train de se construire, de se déconstruire sur certains sujets. J'ai pas non plus l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de grave.
T'as pas fait de dinguerie, je crois.
J'ai pas fait de dinguerie, je suis pas arrivée en faisant un salut nazi quelque part.
Oui, non.
Tu vois, je respecte les gens qui me suivent, je les arnaque pas, je vends pas de produits qui sont dangereux, pas de pilules amincissantes, je fais attention, j'essaie de partager des bonnes valeurs et je le ressens quand justement il y a plein de gens qui m'envoient du love, mais c'est vrai que parfois en fait je suis obligée de déconnecter mon cerveau et je crois qu'à force je commence vraiment à être assez étanche à tout ça, anesthésié, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus.
Ouais, ouais.
Mais à un moment, j'ai dû être obligée de mettre des œillères.
T'es obligée de te blinder là-dessus, finalement.
Je suis obligée de me blinder dessus parce qu'en fait, il y a eu un moment où j'ai un certain déclic. C'est que pendant longtemps, on a parlé de mon corps. Enfin, on parle beaucoup de mon corps même actuellement. Il y a quelque chose aussi avec les femmes en général. C'est que ton corps évolue, c'est que ton corps change. Que ton corps, malgré toi, même si tu fais du sport 15 fois par semaine et que tu manges un grain de raisin, ton corps peut continuer de grossir. C'est des choses qui te glissent entre les doigts et qui, déjà, toi, tu dois accepter ça et comprendre ce qui est en train de se passer. Et en même temps, tu as la moindre apparition. C'est-à-dire, ça y est, elle est enceinte, donc elle a bien mangé à la cantine. C'était open buffet chez France Inter. Tu vois, je sais que je vais le lire.
Ouais.
Et en fait, il y a un moment où j'ai perdu un petit peu de poids et j'ai porté un crop top à Cannes. Et j'ai vu le cercle, parce qu'on m'a longtemps critiqué sur le fait que j'avais pris du poids.
Et donc là, c'était l'indice.
J'en ai perdu, et ils ont dit, vous voyez, le body positivisme, en fait, c'était que du marketing, et finalement, elle a perdu du poids, on ne peut plus jamais gagner, en fait. Et je crois que...
Est-ce que ce n'est pas ça, justement, pardon de te couper, est-ce que quand on est aussi connu que ça, est-ce qu'on ne peut plus gagner, justement?
Tu sais quoi, c'est même pas une question d'être connu ou pas, parce que ça arrive aux femmes au quotidien qui n'ont pas forcément la plateforme que j'ai. C'est quand t'es une femme, tu te rends compte à un moment dans ta vie que tu ne pourras pas gagner. Même quand tu gagnes. Et parfois, j'ai l'impression que c'est ce sentiment-là. J'ai l'impression que je ne peux pas gagner même quand je gagne. Même quand je fais des trucs très sympas.
Ouais.
On va forcément, par la suite, venir te défoncer sur le choix de ta tenue, sur le choix de ton maquillage, sur pourquoi elle a porté ça, pourquoi elle a mis ce manteau là chez France Inter et elle n'a pas mis ça. Et si j'avais rien mis, ils m'auraient dit « Mais pourquoi elle n'a pas fait ça ?» Donc au final, ce n'est pas moi en tant que particulier. Et c'est aussi la plupart des attaques. C'est la raison pour laquelle j'accepte de continuer à en parler en interview et tout, parce que je ne vais pas te mentir que j'ai quand même parfois un peu la flemme de toujours parler du fait que je me sois fait harceler en ligne et que ce soit... Ça fait maintenant partie de mon quotidien. C'est très grave parce qu'il y a des jeunes qui me suivent et que j'ai pas envie de banaliser ça. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être cette meuf qui se fait juste harceler parce que je fais plein d'autres choses dans mon quotidien.
Oui, tu n'es pas résumé à ça.
Voilà, j'ai 3 entreprises à gérer et pourtant, sur mon étiquette, ça va être Léna, la fille harcelée. Alors que vraiment, je fais d'autres choses que me faire harceler en ligne. Mais j'accepte de continuer d'avoir ces conversations-là parce que je pense qu'elle reste hyper importante et parce que je pense qu'il faut aussi utiliser la plateforme que j'ai pour mettre en garde les jeunes qui nous suivent, même les meufs de mon âge, en fait. C'est même pas que les jeunes, les meufs de mon âge, de leur dire, les filles, s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que même quand on gagne, on sera jamais les gagnantes. Il y a toujours quelqu'un qui va venir te rabaisser, il y a toujours quelqu'un qui va venir te parler de ton physique, de ton poids, de tes idées. Tu peux être la nana la plus brillante de la salle, on va dire, mais pourquoi elle a mis ce manteau-là? Et quand tu commences à changer la valeur de leur jugement, c'est là où moi j'ai pris un grand recul. Je me suis dit, mais ces gens-là sur Twitter, auxquels je ne partage pas du tout leurs idées, parce que c'est ce que je dis parfois, c'est ce mec-là qui vient de faire un tweet où il se fout de ma gueule, est-ce que j'ai vraiment envie d'être copine avec lui? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de lui plaire de la même façon que la copine de ta tante, elle a dit « Ouais, t'as vu comment elle était maquillée au dîner de Noël ?» Tu dis « Est-ce que vraiment, Jacqueline, la copine de ma tante, j'ai envie d'être copine avec elle ? Est-ce que j'adhère à ses valeurs ? Est-ce que j'adhère à sa vision de la vie ?» Ouais. Non. Par contre, si c'est le cas, bah là, je peux faire un travail sur moi, là, je peux ouvrir une conversation, là, on lance un débat, il n'y a pas de souci. Par contre, à partir du moment où je sens que la personne est en face de moi, je n'ai pas envie de lui plaire, alors j'arrive...
J'avais lu quelque chose comme ça qui disait pourquoi est-ce qu'on veut être aimé par tout le monde alors que même nous,
moi, je
on n'aime pas tout le monde.
Moi, je les aime pas. Ouais. Je dis mais pourquoi on veut leur plaire alors que eux, je les aime pas.
Ouais, ouais.
Donc voilà, tu commences un petit peu à te défaire du regard des autres. Tu commences aussi à faire le deuil de la perfection.
Ouais.
Et aussi, tu commences à changer ton jugement. Ton jugement et ton jugement de valeur. Mmh.
Léna, je te propose de repartir en 2015, à une époque où Rihanna régnait sur la pop mondiale avec une aisance presque insolente. Bitch, better have my money. C'est elle, en mode pleine puissance, un banger trap, une attitude sans filtre, une prod qui tape et un titre devenu un classique instantané. Encore une artiste que tu as reçue.
Yeah, yo. Yeah, yo. Mon lala. Yeah, yo. Bitch, better have my money. Y'all should know me well.
C'était Bitch Better Have My Money, un classique de Rihanna, une des artistes préférées, notre invitée du soir, Léna Situation. Grosse actualité niveau série. Cette semaine, Netflix ouvre un nouveau portail vers l'Upside Down. Stranger Things revient pour sa cinquième et ultime saison et on peut dire sans trembler qu'on parle de l'une des séries les plus marquantes de ces 10 dernières années. Stranger Things, c'est ce moment rare où une série née en 2016 avec un casting composé d'inconnus et de deux créateurs, les frères Duffer encore peu identifiés, est devenue un phénomène mondial à la fois nostalgique, mainstream, générationnel et profondément cinéphile. Une série qui a remis les années 80, ses couleurs, ses BMX, ses jeux de rôle, ses synthés en avant et surtout un hommage XXL au cinéma qui a façonné toute une culture.
I was tripped by this mouth breather toy, okay? Mouth breather? Yeah, you know. A dumb person. A knucklehead.
Knucklehead?
Avant de plonger dans la saison 5, on remonte un peu le fil. Stranger Things, dès sa première image, les néons, la cave, la partie de Donjons et Dragons annonce la couleur. On est dans l'univers d'Amblin, la société de Spielberg derrière E.T., Gremlins, les Goonies ou Rencontre du troisième type. La série fonctionne comme un patchwork de références, une sorte de playlist cinéma années 80. E.T. pour la relation enfant-créature, les Goonies pour la bande d'amis, l'aventure constamment à hauteur d'enfant, Stand By Me pour l'idée du passage à l'âge adulte des frontières entre innocence et traumatisme, Poltergeist pour le surnaturel qui envahit littéralement les murs du foyer, Alien et The Thing pour la créature, le monstre, l'horreur organique, A Nightmare on Elm Street pour l'intrusion du cauchemar dans le réel, et la saison 4 avec Vecna pousse cet hommage très très loin. Mais Stranger Things ne se contente pas de copier. La série réassemble, réactualise, modernise. Pas de filtre nostalgique façon « c'était mieux avant », les frères Duffer utilisent ces références comme des briques pour construire un univers qui parle aussi d'aujourd'hui, du harcèlement scolaire au trauma, en passant par l'identité, la perte et la résilience.
Accident or not, admit it, it was a little awesome.
Awesome?
Yeah, she threw you in the air with her mind.
I could have been killed.
Which is exactly why we need her. She's a weapon. Do you seriously want to fight the Demogorgon with your wrist rocket?
Stranger Things, c'est l'exemple parfait d'une série qui dépasse l'écran pour devenir culture pop totale. Elle a relancé des carrières. Winona Ryder, icône des années 90, redevient un visage familier. Elle a révélé Millie Bobby Brown. Elle a même remis la musique des années 80 au sommet des charts. Running Up That Hill de Kate Bush, sorti en 1985, devient numéro 1 mondial en 2022. Et Master of Puppets de Metallica retrouve une nouvelle jeunesse grâce à Eddie Munson. La série a été pensée comme un produit transmédia parfaitement calibré pour les mèmes, les extraits TikTok, les cosplays, les playlists. Elle part d'une décennie qu'une partie du public n'a jamais connue, mais qu'elle fantasme désormais. Et Hawkins, petite ville de l'Indiana, est devenue un lieu mythologique comme Sunnydale, Springfield ou Gotham avant elle. On aurait pu craindre un simple exercice de style nostalgique, mais non, la série tient parce qu'elle a un cœur émotionnel très fort. Chaque personnage est lié à un thème précis. Eleven, c'est la question du pouvoir, du traumatisme et du droit à l'enfance. Will, c'est la notion d'identité et de place dans le groupe. Hopper, c'est le deuil et la reconstruction. La bande, c'est la métaphore éternelle, c'est ensemble qu'on affronte les monstres. Et les monstres de la série ne sont jamais juste des créatures, ce sont des incarnations psychologiques, le danger qui rôde, la peur de grandir, l'ombre des traumas qu'on n'a pas encore réglés. Et avec la saison 4, la série a franchi un cap en assumant pleinement son côté horrifique, très inspiré par Freddy Krueger et en mettant en place la grande bataille finale que va conclure cette saison 5. Sans spoiler, la saison 5 s'annonce comme la grande bataille de Hawkins où tout converge, un retour à une ambiance sûrement plus sombre et plus adulte, et surtout la conclusion d'un arc pensé depuis le départ, Stranger Things ayant toujours été imaginé comme une histoire en 5 chapitres. Et puis, il y a ce défi. Comment conclure une série qui a accompagné toute une génération pendant presque 10 ans, qui a relancé un style, une époque, une manière de raconter les histoires fantastiques? Ce qui est certain, Stranger Things a déjà gagné. Elle a ramené les ados vers les années 80, remis le fantastique à hauteur d'enfant, réhabilité la narration feuilletonnante. Et elle a prouvé qu'une série pouvait être à la fois un hommage et une œuvre à part entière.
Maizy sur France Inter.
Tout de suite, on est de retour avec Léna Situation. Pour la sortie de ce livre, tu as créé ta maison d'édition.
Ouais.
C'est quand même quelque chose.
C'est chouette.
C'est pas mal. Alors, mais j'imagine qu'avant ça, tu as dû passer par plusieurs étapes. Le premier livre s'étant extrêmement bien vendu, on l'a dit. J'imagine que tu as dû avoir des demandes,
ouais.
qu'on a dû vouloir te demander de faire une suite rapidement. Je crois même d'ailleurs que tu l'as envisagé, en tout cas que tu l'as réécrit ce livre-là, que ça a été long. Pourquoi déjà, qu'est-ce qui a été compliqué et qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à la création de cette maison d'édition?
Le processus, j'en parle d'ailleurs dans les premières pages d'Encore Mieux, c'est qu'est-ce qui se passe une fois que tu as un succès, ton premier succès? Parce que tu rêves de ce premier succès, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est un peu comme quand tu réalises un rêve, tu te rends compte qu'il faut aussi un petit peu le tuer et en trouver d'autres, ouais. des rêves. Et le premier livre, jamais, au grand jamais, et c'est pas de la fausse modestie ou de l'humilité, jamais j'aurais pensé vendre 500 000 livres. Et jamais j'aurais pensé que le mouvement du plus égale plus, c'est quelque chose que moi j'écrivais sur mes feuilles, mes brouillons du bac, le positif attire le positif. Jamais j'aurais imaginé que, je sais pas, des dizaines de milliers de personnes auraient le tatouage plus égale plus par la suite. Mais au grand jamais. Donc, il y a le processus de déjà se rendre compte de ce qui est en train de se passer, de se rendre compte qu'aux yeux de certaines personnes, tu vas devenir un objet marketing plutôt qu'un humain qui va écrire un deuxième livre. Ça va être qu'est-ce qu'on va vendre par la suite. Et je sais que moi, je suis pas mal en contradiction sur ça. J'ai un esprit quand même assez business. J'aime aussi être une femme d'affaires. Ouais. Parce que ça te permet...
C'est ce que tu es aussi aujourd'hui.
Ouais, mais c'est parce que ça te permet aussi d'avoir ta liberté.
Ouais.
Et en fait, quand tu es au contrôle et que tu es celle qui va gérer ton emploi du temps, les personnes avec qui tu vas collaborer et qui va éditer ton livre, ça te permet ensuite d'avoir la liberté pour l'écrire de la façon que tu le souhaites, dans le timing que tu le souhaites, de savoir où est-ce qu'il va être distribué et quelles interviews par la suite tu vas faire. Et en fait, le premier livre, on l'avait fait avec Robert Laffont, ça s'était très très bien passé, on était tous sur les fesses en disant mais... Bon, j'ai jamais rencontré Robert, mais... Qu'est-ce qui se passe, Robert? On était tous sur le cul, ça nous a vraiment dépassés. Mais là, je me suis dit, ok, bah, en fait, j'ai pas envie d'être dans la course des chiffres. C'est pas parce que le premier livre s'est bien vendu que le deuxième va bien se vendre. Ce qui va maintenant m'importer, c'est vraiment la qualité de l'écriture, de la conversation que ça va ouvrir. Il est beaucoup moins lisse que le premier, il est beaucoup moins... Je pense qu'il s'adresse plus à une audience en particulier... que le premier, où j'avais un truc un peu plus universel, avec vraiment les premières bases du développement personnel, comme tu peux l'imaginer. Et le deuxième, on se déconstruit sur pas mal de points, et on se construit sur d'autres. Et un point qui est assez important, c'est comment tu peux contrôler ta liberté, ce qui sont deux choses assez paradoxales. Mais pour tous les artistes, pour toutes les personnes qui souhaitent protéger leur passion, faire de leur passion un métier, et je sais qu'on a une génération où on entend les darons dire toute la journée oh, aujourd'hui ils veulent plus rien faire les jeunes. Je fais beaucoup de consulting pour des marques qui me disent ouais mais votre génération ils veulent plus travailler comme avant, nous on se butait au travail. Je dis ouais mais en fait non, évidemment que nous on a vu nos grands-parents et nos parents travailler,
se tuer au travail, effectivement.
Se tuer au travail, pas pour gagner plus, pour faire en sorte que le patron à la fin gagne plus, et surtout il n'y avait pas le bonheur à la clé. Et donc, du coup, c'est chacun définit son succès. C'est la raison pour laquelle je trouve que le développement personnel et les bouquins de développement personnel peuvent être assez néfastes et dangereux. C'est quand on vient t'amener beaucoup d'injonctions et ce discours qui te paraît hyper universel. J'ai fait beaucoup, beaucoup d'étapes de développement personnel. À un moment, je me suis butée. Mais dis, j'ai tout fait. La loi de l'attraction, le Miracle Morning, où tu te réveilles à 4 heures du matin et... Et au final, t'es juste fatiguée, quoi. Genre, ça m'a pas fait avancer. Il y a certaines étapes qui m'ont aidée à certains moments, et c'est ce que je voulais retracer dans le livre.
Ouais.
C'est que la nouvelle génération, c'est pas qu'on veut pas travailler. C'est pas vrai. C'est que on veut créer notre chemin, je pense, dans lequel on définit nous-mêmes notre succès.
Mais t'as dit, oui, quand on a un rêve, il faut tout de suite le tuer pour en avoir un autre. Mais est-ce que c'est pas sans fin, ça? Parce que, par exemple, j'imagine que si je t'avais dit, il y a 15 ans, que t'allais interviewer Rihanna, t'aurais dit, c'est bon, je prends ma retraite.
Ah oui,
ouais. Sauf que, non, c'est pas vrai. Je suis sûr que c'est pas vrai que t'y as pas pensé. Mais du coup, ça pose cette question-là de, bon, en fait, quand est-ce qu'on est... Non pas que tu dois être rassasié, t'es jeune, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui peut être un peu vertigineux et flippant de se dire, mais j'en aurais jamais assez? Ce qui est humain quand on court toujours après plein de rêves, après plein d'ambitions, après plein de projets, est-ce que c'est pas parfois trop, ne serait-ce que psychologiquement, est-ce que c'est pas, t'as pas besoin parfois juste de prendre une pause et de se dire là, je fais rien pendant un an, deux ans, ou alors je fais autre chose, tu vois, mais je cours moins après mes rêves.
Là, j'ai plus trop l'impression de courir. J'ai l'impression d'avoir trouvé un rythme dans lequel je commence vraiment à être bien entourée, à monter des équipes sur certains des projets. Là, je suis plus dans l'envie de... Pas de passation, mais de passation.
Ok.
Je suis pas prête à complètement quitter le navire, mais j'aimerais bien ne plus être seule sur mon bateau et de pouvoir aussi produire des projets sur lesquels je suis pas forcément devant.
C'est pas forcément toi qui portes, qui dois porter.
En fait, ma passion de base, c'était pas d'être une petite starlette, c'était vraiment de créer des vidéos. J'aime vraiment profondément tout le processus de création, de montage, d'écriture de vidéos, de réalisation. Voilà, j'aimerais beaucoup réal d'autres projets si l'occasion y va. Mais là, tout de suite, le plafond de verre, ce qui me surprend, c'est qu'à chaque fois, j'ai l'impression que je suis arrivée au max. Et puis, on t'appelle, on te dit « Bah, coucou, tu veux interviewer Rihanna ?»« Bah, ouais. »
Je vais peut-être pas faire la passation tout de suite.
Voilà. Non, ouais, bah, en fait, je pense que l'un n'empêche pas. Maintenant, j'aimerais faire en parallèle. Ouais. J'aime avoir mon chemin de mon côté avec ma team. Et j'aime aussi l'idée de pouvoir commencer à construire et pour justement partager la lumière. Faire en sorte... je ne sais pas, de dénicher des talents, de trouver des personnes qui ont envie de raconter elles aussi des histoires, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que j'ai aujourd'hui. Je ne suis pas dans une situation qui est hyper privilégiée. Si ce n'est pas pour la partager, bah, tu es juste égoïste. Quoi.
Une fois qu'on a fait Rihanna, donc on a
reçu... On a reçu Beyoncé.
C'est ça,
bah, oui.
C'est
ça.
Ok, c'est la question que je vais te poser.
Beyoncé.
L'idée, c'est de faire... C'est possible.
Non, je ne pense pas.
Tu ne penses pas?
Après, attention, hein. Il faut jamais dire jamais, parce que Rihanna, jusqu'au moment où elle arrive, j'y crois pas. Pareil pour Anna Wintour. Anna Wintour, je pensais que c'était un prank. J'étais dans le train pour Londres pour aller l'interviewer, et je me suis dit, qui c'est qui va arriver avec une perruque carrée? Je me suis dit, en fait, on me fait un prank, genre McFly et Carlito, ou tu vois, une vidéo prank.
Ouais.
Et quand c'était vraiment, j'ai fait, oh putain, c'est vraiment
c'est réel.
Mais ce qui est pas mal, c'est que j'ai pas eu le temps de stresser, du coup.
Léna, je te propose d'écouter un autre morceau d'une femme forte, Billie Eilish. On va écouter le morceau « L'amour de ma vie » qui est dans un registre plus intime, presque murmuré, avec cette façon unique de communiquer des émotions très personnelles au reste du monde.
I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie. I said you were the love of my life, the love of my life. Did I break your heart? Did I waste your time? I tried to be there for you, then you tried to break mine. It isn't asking for a lot for an apology, for making me feel I could kill you if I tried to leave. You said you'd never fall in love again because of me, then you moved on immediately. But I wish you the best for the rest of your life. Felt sorry for you when I looked in your eyes. But I need to confess, I told you a lie when I said you my life, the love of my life.
almost all of the time. But after I left, it was obvious why. Because for you, you, I was the love of your life. But you were not mine.
C'était Billie Eilish. Tout de suite, on poursuit la discussion avec Léna.
France Inter, Mehdi Maizi, à la régulière.
Toi, ton rapport à la mode quand t'es petite, c'est quoi? C'est-à-dire que, à quel moment ça se fait le déclic? Qu'est-ce qui te plaît autant? Est-ce qu'il y a une personne qui te fascine, dont le style te fascine? Est-ce que c'est un créateur ou une créatrice? Comment ça arrive et ça t'obsède autant quand t'es jeune?
Ça m'obsède parce que ma maman, elle était couturière. Elle faisait du stylisme et modélisme. Elle avait une carte de visite qui disait de l'ourlet à la robe de mariée. Et elle travaillait, elle était en auto-entreprise, elle travaillait de la maison et elle recevait des clientes qui venaient. Ils disaient, ouais, j'aimerais refaire ce pantalon. Ah bah, je rentre plus dans ma robe, vous pouvez me la retoucher. Et puis parfois, elle faisait des projets trop rigolos. Je crois qu'elle avait fait genre des costumes pour un éléphant, pour un cirque à l'époque.
Okay.
Tous les jours, c'était nouveau. C'est comme si c'était influenceuse, en fait.
Oui, oui.
Chaque jour était différent. Et c'est surtout là où j'ai vu un bout de tissu qui devenait une vraie robe.
Une œuvre.
Parce qu'elle savait faire du patron, elle savait coudre. Et donc, du coup, c'est là où ça a commencé, la couture. J'ai d'abord essayé de coudre. Et j'étais nulle. Très, très, très nulle. Parce que je n'avais aucune patience de rester assise. Et je n'avais pas encore trouvé ce truc où, en tant qu'hyperactive, je pouvais m'asseoir et pas penser à autre chose et devoir faire autre chose en même temps. Ce n'était pas la couture, malheureusement. Ce n'était pas le point de croix non plus. Par contre, j'ai commencé à découvrir en parallèle l'histoire de la mode. Ces histoires de créateurs, ces histoires d'héritage, ces histoires vraiment que j'associe à de l'art. Et c'est là où j'ai aussi découvert la haute couture. Et c'est là où ça prend tout un autre sens. C'est vraiment un concentré, c'est une fourmilière de gens d'un métier très artisanal, chacun de son côté, qui font en sorte de par la suite raconter une histoire sur un défilé. Et c'est là où je me suis dit, waouh, c'est ça qui me plaît vraiment pas mal, c'est l'histoire de la mode. Et par la suite, en parallèle, j'ai eu la mode comme bouclier. J'étais quelqu'un de très, très, très complexé. Et quand je voulais me cacher, la mode m'aidait à me cacher.
Très jeune, tu avais des outfits tu travaillais déjà ça, tu faisais attention à ça ou...
Au début, oui. Puis après, venu à la période collège et où j'étais un peu moins populaire et que je voulais juste rentrer dans le moule pour pas qu'on, qu'on parle de moi à l'école. Et puis par la suite, la mode a été un autre bouclier parce que quand j'étais trop timide pour dire ce que je pensais, mes tenues allaient le faire à ma place. Parce que même quand tu crois que t'aimes pas la mode et que tu dis « Ouais, moi j'ai juste mis un t-shirt, un jean pour pas sortir tout nu », bah ça aussi c'est une décision de mode. C'est vraiment, c'est toujours plus qu'un vêtement. Mais je te parle de la mode, vraiment la création, parce que ça devient sur la possession.
C'est la phrase de Luc Prigent que tu reprends dans
le livre. J'adore la mode, c'est tout ce que je déteste.
Voilà.
Qui est très, très, très pertinent, je trouve.
Parce que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu détestes les gens qui vont récupérer ça, en tout cas, mais t'aimes la mode, t'aimes le...
J'aime la mode, en tant que telle. J'aime le vêtement, j'aime l'histoire que ça raconte, j'aime quand un créateur... J'étais au défilé Courrèges, il y avait des robes extraordinaires avec tout un voile qui venait cacher le visage. Et je parle avec le créateur, je lui dis « Nicole, mais comment t'as eu cette inspiration ?» Et il me montre une photo, tu sais c'était quoi son inspiration? Les pare-soleils qu'il y a sur les voitures. Tu sais quand il fait hyper chaud,
fait trop chaud
et que tu mets ce pare-soleil en aluminium trop chum, et bah ça, en voyant ça, ça l'a inspiré une robe. Et c'est ce genre de choses que j'adore.
Ouais.
C'est le cerveau des directeurs artistiques, c'est le cerveau de toutes les personnes par la suite. Tout ce que je déteste, ça va être le reste. Ça va être les injonctions... le snobisme. Mais pas tout le monde, finalement. Je crois que notre nouvelle génération, ça a un peu bousculé. Ça,
je connais pas ça. Moins bien que toi, évidemment. J'ai l'impression que c'est un peu moins le cas.
Ouais, j'ai rencontré quand même quelques connards sur le chemin.
Ok.
On en parle dans le livre, d'ailleurs, justement.
Ouais.
C'est drôle de façon de parler dans le milieu de la mode.
Quand t'étais jeune...
Oui.
Plus jeune, tu es jeune, pardon, quand t'étais plus jeune.
Oh, ça y est, je commence à claquer la bise de 30 ans, là. Hein.
Ça va.
T'as quel âge, Chamédie?
39. Un ancêtre.
Tu les fais tellement pas.
Moi, c'est gentil. Je garderai ça comme
moment
de... Ce sera le moment d'émission pour moi, que je montrerai à ma cousine qui a 18 ans, justement, qui te kiffe. Qui était pour toi la personne la plus stylée quand t'étais jeune?
encore.
Vraiment, même, ah ouais. même t'as toujours, en fait, t'as toujours
mais qui
été.
Qui d'autre? Dis-moi qui d'autre.
Non, non, bah, pas grand monde, Rihanna, mais.
Et Rihanna, tiens, j'ai grandi dans l'époque, c'était le début des années 2000, donc c'était vraiment une façon d'être une, considérée comme une femme belle. Il fallait être blanche, blonde, fine. Et Rihanna, elle est arrivée quand même avec une nouvelle façon de définir la beauté et surtout une confiance en elle qui, dont j'avais besoin à cet âge-là. Et ça m'a touchée, ça m'a attrapée par la suite. C'est ce que je vous dis dans le podcast. C'est, c'est pour moi un moment très, très puissant parce que les moments où j'allais mal, j'écoutais ta musique. Et les moments où j'allais bien, j'écoutais ta musique. Donc, c'est ça la force de la musique.
C'est bientôt la fin de cette discussion.
Non,
malheureusement. Bah oui, mais malheureusement.
Reste.
On reste. C'est une dernière question, mais c'est quoi la suite pour toi? Est-ce que, parce que j'imagine que tu as déjà des choses en tête. À quoi tu réfléchis? Est-ce que YouTube, c'est un terrain de jeu qui est. Est-ce que c'est pas trop petit pour toi?
Non.
Aujourd'hui.
Non, YouTube, ça reste le numéro 1.
Dans mon vraiment
cœur. Vraiment.
Dans ton cœur, mais est-ce que c'est encore le cas dans ta vie?
Sur la
encore le temps de
création, j'ai pas forcément le temps, mais c'est pas une question de temps, c'est une question aussi de quelles vont être les choses intéressantes à raconter. C'est vrai qu'à un moment YouTube aussi a beaucoup changé et je m'identifie un petit peu moins à toutes les vidéos qui sont hyper produites, les grosses prods et tout. J'ai un peu l'impression de faire tâche au milieu de tout ça avec mes vlogs maison. Et au final, je me vois pas faire autre chose. J'aurais un peu l'impression de me travestir si demain ça devient comme une sorte d'émission de télé ou quoi que ce soit, c'est là où ça irait pas forcément avec ma personnalité. Okay. Mais si j'ai une histoire à raconter, la première destination, ce sera YouTube.
Ok. T'as pas une envie de cinéma, une série?
Non, je suis quand même assez à l'aise avec mon rôle d'influenceuse. Je sais que beaucoup cherchent à quitter la casquette influenceuse parce que c'est pas très prestigieux. Je l'entends, le mot influenceuse, il fait grincer des dents parce qu'il y a aussi beaucoup de...
Oui, oui, évidemment.
De folie dans ce métier. Ouais. J'essaie de pas en faire partie. Je crois pas en faire partie. Mmh. Et du coup, je suis quand même assez à l'aise. J'ai l'impression qu'on peut faire encore pas mal de choses dans l'influence.
Moi, je trouve ça, en tout cas, trop bien comme réponse parce que pour être quelqu'un qui vient du milieu du rap, souvent, il y a ce truc, tu sais, on veut faire en sorte que les artistes rap, pour qu'ils réussissent, ils sortent du rap. Parce que comme si le rap, c'était pas assez classe. Et dans ta réponse, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire que, et même, peut-être ma question, elle était un peu orientée en mode, ah, peut-être qu'un jour, elle veut s'en sortir, alors que non, en fait, ça te va
jusqu'ici,
très bien.
Tout va bien.
Ouais.
Si un jour, une belle occasion se propose, pourquoi pas. Je vais tourner dans un film, là, je crois qu'il va sortir début d'année. Je sais même pas, ce sont je coupe au montage. c'est un film anglais, je joue une petite française, donc c'était rigolo. Okay. Mais j'ai pas envie, là, tout de suite, de prendre une case qui n'est pas forcément la mienne, dans le sens où si on me donne un premier rôle juste parce qu'on pense que Léna Situation va faire venir des gens en salle, je pense que c'est faux. Je pense que les gens sont beaucoup plus smart. On a un public très averti. Et les gens, ce qu'ils veulent, c'est la qualité. C'est pas tant tu mets une tête d'affiche et ça va faire venir des gens dans ta salle de cinéma, je pense pas. J'aimerais que le choix se fasse si c'est pertinent. Si je me sens à l'aise dans le rôle, pourquoi pas. Mais là, tout de suite, mon rôle de créatrice de contenu sur Internet me plaît. Et puis là, pour la suite, ce qui me manque, maintenant, j'ai fait beaucoup d'Internet, j'ai envie d'aller voir les gens en vrai. Donc c'est pour ça, là, pour le livre, on prépare le Encore Mieux Tour. C'est mes conversations actuelles, c'est comment on va faire pour proposer des séances de dédicaces où c'est pas juste moi dans un centre commercial avec une petite table et un kakémono et les gens qui font la file d'attente pendant 3 heures. Je trouve ça trop chum. Parce qu'en fait, tu viens, on se voit 30 secondes, je te dédicace ton livre, salut, ça va? C'est quoi ton prénom? Et j'aimerais qu'on aille plus loin dans la séance de dédicace et qu'on propose vraiment des vrais. Je sais pas, une vraie animation, une vraie expérience.
Ouais.
Parce que rien ne bat l'humain. Internet, c'est génial. Le digital, c'est trop chouette. Ça a ouvert des conversations à des gens qui n'avaient pas leur place habituellement. Ça a ouvert la place à plein de minorités à qui on avait bien fermé le clapet sur des médias plus traditionnels à l'époque. Donc, c'est sûr que le digital, j'adore. C'est toute ma vie. Mais rien ne bat l'humain.
Merci beaucoup, Léna.
Bah, merci.
C'était un plaisir.
C'est passé vite, hein?
Bah, c'est passé vite. Bah, quand on est entre gens de bonne compagnie. Merci, Léna, d'être venue nous voir aujourd'hui. Et merci aux personnes qui ont préparé cette émission. Alexia Lacour, Redouane Tella, une émission réalisée par Guillaume Giraud. La programmation musicale est signée Jean-Baptiste Audibert. À la technique ce soir, c'était Laurent Baudouin et Jules Benveniste. Merci aux équipes web et vidéo. On se retrouve demain avec This Is. Pour découvrir ou redécouvrir nos émissions, abonnez-vous sur l'application Radio France.
À la régulière. sur France Inter, Mehdi Maizi.